je vais appeler donc maintenant Françoise Liou pour quelques mots, peut-être, comment on peut dire, de mise en perspective ou de. On hésite toujours à dire conclusion, comme si le chantier s'arrêtait à ce moment-là. Françoise Liou, donc, est à l'Université Montaigne de Bordeaux. Et au fond, ben voilà, elle est à plusieurs titres The Right Woman in the Right Place. Elle s'est occupée de métiers culturels. Elle a travaillé sur la participation des habitants à la vie culturelle. Et il s'appelait comme ça le dossier coordonné avec Marie-Christine Bordeaux dans la revue de l'Observatoire des politiques culturelles. Et puis là, elle est en train de mener une recherche justement sur les professionnels de la culture dans les établissements de santé. Alors merci à Françoise Liou de nous dire au fond, après cette journée où nous avons entendu trois tables rondes, nous dire un peu quelle réflexion cela lui a inspiré. Merci François.
Excusez-moi, je prends deux secondes d'installation. Oui.
Bon, il veut pas.
Comme ça.
J'espère que tout à l'heure ça va marcher. Ce que j'ai, c'est surtout cette diapo qui est importante.
Non, ça va pas.
C'est, on peut pas ouvrir avec PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire sans.
Ah oui, d'accord. J'ai compris.
Bien, ben merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité et à participer et à entendre aussi ces échanges qui ont été très 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 riches toute cette journée. Donc j'ai la charge de tenter une conclusion de cette journée. Je ne vais pas dire une synthèse, ça serait difficile. Et puis Philippe Henry tout à l'heure a déjà synthétisé pas mal de choses, je trouve. Donc c'est pas mal. C'est plutôt peut-être une ouverture et pointer certains aspects qui me paraissaient intéressants. Alors effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, ma casquette, c'est une casquette d'enseignant-chercheur en sociologie, et particulièrement actuellement, on mène une recherche principalement sur le dispositif culture-santé en Aquitaine, puisque je viens de Bordeaux, donc de l'Aquitaine. Et donc c'est une recherche. J'ai fait cette petite diapo de présentation pour montrer un peu le titre. Ça s'appelle « Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé, quels changements dans les pratiques et les organisations ?» Et ce qui nous avait semblé intéressant d'étudier dans ce travail, c'était justement comment ces projets-là viennent bouger les lignes dans les organisations, travailler les représentations, travailler sur les pratiques, travailler sur les modèles organisationnels aussi, côté santé, mais aussi côté culture. Donc en essayant de tenir les deux aspects, c'est-à-dire considérant qu'on a deux mondes organisationnels qui sont très différents, qui ont peut-être un point commun, c'est qu'ils subissent des crises assez fortes, c'est pas les seuls, hein. On l'a vu dans notre société, on est en plein mouvement quand même dans bien des domaines. Et donc d'interroger justement la place de ces projets et comment ces projets culturels viennent justement interroger les pratiques, les représentations et les organisations. Donc c'était ça le point de départ de notre travail, avec aussi un regard particulier sur les modes de gouvernance et sur les politiques publiques par rapport à ça, puisqu'il s'agit aussi de comprendre comment ces dispositifs se sont mis en place, se sont mis en place différemment selon les régions. Est-ce que ce sont des dispositifs, est-ce que ce sont véritablement des politiques publiques qui sont en train de voir le jour, ou dans quelle mesure ça peut devenir des politiques publiques. Donc c'est tout ça qui était en jeu. Alors, je vais vous parler de la recherche dans un deuxième temps, après avoir tiré quelques fils. Et j'ai amené une diapo, je ne savais pas trop si j'allais la passer ou pas, parce que c'était un peu, il y a un côté un peu improvisation quand même dans cette façon de conclure la journée. Et en fait, quand même, j'ai fait une diapo qui synthétise un petit peu les résultats que l'on a obtenus par rapport au champ artistique. Hein. C'est qu'une partie de la recherche là, que je vais vous montrer, qu'un aspect qui n'est pas encore du tout achevé, mais une façon de présenter les choses sous forme d'un schéma, alors qu'il y a l'avantage et les inconvénients du schéma. L'avantage, c'est qu'on arrive à mettre beaucoup de choses, c'est ça ce qui me paraissait, à rendre visuel un certain nombre d'éléments. L'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est toujours un petit peu trop synthétique, et ça ne dit pas tout, évidemment. Donc cette diapo, elle me paraît intéressante parce qu'elle fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de dire, et je trouve qu'elle elle schématise un petit peu aussi cette journée. Donc je vais vous la présenter. Je voudrais quand même revenir avant sur quelques éléments qui me paraissent intéressants dans la journée. On est parti sur un terme aussi qui est celui de la rencontre. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi, quand j'ai été invitée, je suis la rencontre, c'est un terme un peu mou, d'une certaine manière, où ça veut dire beaucoup de choses. Et souvent, la question de la rencontre, en fait, on la trouve dans beaucoup de réflexions, mais sous une autre forme. Et finalement, à l'issue de ces journées, je me rends compte justement que c'est un mot qui finalement englobe énormément de choses, et que finalement c'est pas mal de le garder, peut-être parce que justement il y a plein de choses qui sont comprises dans ce terme-là. Je vais quand même les citer, ces mots-là. Moi, ça me renvoie à la question transversalité. C'est des termes qui sont venus, mais c'est un terme qui est plutôt du côté justement du travail social, je trouve, cette question de la transversalité, aussi de la psychiatrie institutionnelle, puisqu'il y a une histoire avec cette question de la transversalité qui est beaucoup repris quand même aujourd'hui dans le travail social. Ça renvoie aussi à l'intersectorialité, on voit bien que c'est des secteurs qui se rencontrent, qui se croisent. Ça renvoie à la notion de partenariat, et ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup été mis en avant, justement cette notion de partenariat, de co-construction, et donc un type particulier aussi de rencontre. Il me semble que ce qui ressort aussi de tout ça, c'est que cette rencontre, c'est une ouverture, c'est un déplacement des lignes, c'est la nécessité aussi de se déplacer pour justement sortir de son monde, de son évidence, et interroger aussi autrement finalement sa pratique. Que ça soit du côté des artistes, que ça soit du côté des soignants, que ça soit du côté des différentes personnes qui sont engagées finalement dans ces projets à un titre ou un autre. Ce qui me paraissait aussi important, c'est que ça, ce qu'on a vu monter aussi dans la journée, c'est la question du sens. La nécessité aussi à travers ces projets de réinterroger le sens des pratiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup rencontré dans la recherche. Qu'on rencontre, je travaille un petit peu aussi sur l'éducation artistique et culturelle, et je sais que je ne suis pas la seule aussi, évidemment, à avoir croisé ce secteur-là. C'est quand même des choses qui sont, non pas proches, mais en tout cas qui résonnent aussi dans le même esprit. Et on voit bien aussi que, là encore, c'est dans l'éducation artistique et culturelle, comme dans ces projets culture santé, il y a cette question aussi d'interroger le sens de ces pratiques, de réinterroger le sens de ces pratiques, et justement de sortir un petit peu de son petit univers qui est parfois, qui a ses codes, qui a ses façons de fonctionner, qui a ses logiques administratives, qui a de plus en plus de bureaucratie aussi, qui fait qu'on passe beaucoup de temps à faire autre chose que de penser au sens de ce qu'on fait. Et là, il me semble que ce qui apparaît quand même très, très fortement dans ces projets, c'est justement de renouer avec le sens, de revenir justement au sens. Et nous, c'est ce que nous ont renvoyé beaucoup aussi le personnel soignant, mais aussi les artistes, hein, de réinterroger les pratiques, d'être dans une dimension réflexive, et justement de pouvoir se sortir aussi de ses habitudes, de son fonctionnement, donc une ouverture. Alors moi, il m'a semblé quand même aussi pas forcément généralisable, mais il me semble que c'est des questions qui sont traitées depuis longtemps, on l'a dit déjà ce matin, c'est pas complètement nouveau tout ce dont on traite là. Moi, il me semble que c'est les artistes, ça fait quand même un moment qu'ils se posent ces questions-là, et je pense que dans le travail artistique aussi, il y a une volonté d'innover, d'expérimenter plus exactement, donc d'aller chercher des choses, d'aller chercher des déplacements, c'est un petit peu quand même dans la démarche même des artistes, de se confronter justement à des moyens, à des modes d'activité qui déplacent les lignes hein, dans le travail artistique, donc ça paraît assez logique. Moi, je trouve que les artistes sont un peu en avance là-dessus, dans cette démarche-là, et c'est assez normal hein, qu'ils soient en avance sur les institutions et sur les structures, on l'a évoqué, sur les collectivités publiques aussi. On voit bien que c'est aussi quand même une façon d'envisager la création qui est très particulière. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'artiste moderne, hein, et dans une œuvre qui tient tout de l'artiste, on a la construction aussi justement d'un processus, donc on met l'accent sur le processus plus que sur l'objet final, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. On est aussi dans une conception justement de l'œuvre qui fait que l'œuvre ne tient pas forcément tout de l'artiste, mais qui tient aussi du contexte et qui tient à cette rencontre, c'est-à-dire qu'il y a une démarche artistique qui va justement être possible grâce à cette rencontre et qui amène aussi à accepter que l'œuvre ou ce qui est produit ne tienne pas tout de l'artiste. Alors, je trouve que ça pose quand même la question, une question qui n'a peut-être pas complètement été abordée, ou pas, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est la question de quelle place pour ces projets qui sont basés sur la rencontre. Quelle place on leur donne et justement, qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Alors, on a vu que ce n'était pas forcément toujours une volonté de diffuser, en tout cas, ce n'était pas un résultat qu'on diffusait au sens, ça n'a pas forcément vocation à exister dans une salle de spectacle, dans un musée, dans une salle d'exposition ordinaire, on va dire. Il y a d'autres façons de les faire exister, de montrer le processus, par des blogs, par un ouvrage qui va rendre compte justement d'un processus plus que d'un résultat. Ça, c'est une chose. En même temps, ça pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui se joue finalement dans la place que peuvent avoir ces productions qui sont issues des rencontres. Là aussi, ça m'a fait penser à un mémoire que je viens de lire, en fait, d'une étudiante de Master Po qui est déjà un acteur culturel, puisqu'elle travaille dans le secteur culturel, et qui a fait un travail donc à Bordeaux sur les collectifs d'artistes. Alors, un type très particulier de collectif dans le théâtre, c'est pas représentatif de tous les collectifs d'artistes, loin de là, c'est vraiment, elle a pris 5 ou 6 collectifs d'artistes dans le théâtre, et elle a essayé de comprendre à quoi correspondaient ces collectifs, c'est des très jeunes collectifs qui se sont créés depuis moins de 5 ans. Et ce que je trouve très très intéressant dans son travail, c'est qu'elle les interroge sur la part de l'éducation artistique et culturelle, des actions culturelles, des actions justement à l'hôpital, en prison, etc., de toutes ces dimensions-là. Et ces collectifs qu'elle a choisis, eh bien, eux, ils le vivent comme une contrainte ou comme une obligation, c'est-à-dire comme une forme d'injonction. Aujourd'hui, on leur demande finalement d'avoir plusieurs cordes à leur arc, c'est-à-dire de savoir tout faire pour justement susciter l'intérêt et commencer à se faire reconnaître donc, pour ces artistes qui sont dans une émergence. Et finalement, ben, l'éducation artistique et culturelle, ça apparaît aussi comme une forme de contrainte. Il faut avoir cette casquette-là parmi d'autres. En même temps, ce que je trouve très intéressant, ce qu'elle montre aussi, c'est que c'est des jeunes collectifs qui sont formés à l'école. Et ce qui les a conduits à se mettre en collectif, c'est des rencontres avec des professionnels qui sont en collectif, avec des aînés, donc, qui ont construit des collectifs, qui ont construit une démarche artistique spécifique, et c'est ça qui les a construits. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire aussi qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans ce que produisent les formations, et ça renvoie aussi effectivement à ce qui a été évoqué ce matin aussi par le directeur de l'ENSA, c'est-à-dire la place aussi dans les formations de ces projets-là, de ce qui repose sur la rencontre au sens très large du terme, et pour avoir croisé, pour côtoyer quand même pas mal aussi des écoles plutôt bordelaises, eh bien, on voit que on commence à faire travailler les élèves sur de l'éducation artistique et culturelle à travers quelques projets comme ça de temps en temps. Ils vont être amenés à rencontrer l'éducation artistique et culturelle, mais ça reste quand même assez rare, assez occasionnel. Et je trouve que voilà, la question de la formation, elle est aussi extrêmement, extrêmement importante pour justement que des artistes s'emparent de cette démarche-là et pour transmettre aussi. Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, n'est peut-être pas encore au stade de la transmission aussi, de ces expériences, de tout ce que les artistes qui sont engagés dans ces démarches-là, justement, peuvent aujourd'hui proposer, peuvent avoir expérimenté, peuvent avoir travaillé. C'est devenu, il y a des compétences, on voit bien, ça a été dit aussi dans la table ronde, la première table ronde de l'après-midi, qu'à un moment donné, il faut un temps d'adaptation. Enfin, on n'arrive pas aussi dans ces lieux-là tout de suite, en étant tout de suite très performeur et en comprenant tout de suite tous les enjeux. Donc il y a la question du temps est extrêmement importante. C'est un temps d'observation, c'est un temps de formation, c'est un temps aussi de réflexion sur ce qu'on va y mettre en place et ce qu'on peut y mettre en place parce qu'on va connaître cet environnement. Et même si les projets sont chaque fois différents, même s'il y a une dimension expérimentale qui est très importante, moi je pense qu'il y a des choses qui sont à transmettre aussi. Et là, cette question de la transmission, je pense que voilà, on est aussi à cette étape-là aujourd'hui de transmettre des, non pas des manières de faire, ça serait faux, mais de transmettre aussi des valeurs qui sont véhiculées et des éléments de ce que, du sens que peuvent avoir aussi ces projets-là et la manière dont on peut les mener. Ce qui me semble aussi intéressant à interroger, c'est quand même aussi la manière dont ces projets-là sont considérés d'une façon beaucoup plus large. Du point de vue institutionnel, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit bien que parfois, c'est une nouvelle ligne de financement, c'est-à-dire qu'on a eu le financement, évidemment, pour le théâtre, pour les arts de la rue, pour le cirque, pour le conte, et puis il y a une nouvelle ligne qui se crée parfois, on le voit dans des collectivités territoriales, notamment plusieurs exemples dans des communes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ligne budgétaire création partagée. Donc c'est aussi le risque peut-être de cantonner ces projets-là justement à un nouveau type d'activité, à un nouveau type finalement de façon de créer ou de forme qui serait justement, qui a déjà son titre en quelque sorte de création partagée. Et du coup c'est aussi une façon de ne pas transformer le reste des pratiques. Peut-être justement faire en sorte que ça ne dérange pas trop les lignes des organisations culturelles, que ça reste dans des clous assez positionnés à un certain endroit, on sait à quel endroit c'est, et finalement ça ne vient pas déranger l'ensemble. Or, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que ça interroge quand même aussi les institutions culturelles et les collectivités publiques par rapport à ça et par rapport à la reconnaissance possible, parce qu'on risque vite aussi d'avoir une sorte de reconnaissance à deux vitesses ou de hiérarchisation extrêmement forte entre d'un côté les vrais spectacles et les vraies œuvres, celles qui se présentent aussi dans des théâtres, dans des institutions culturelles qui sont bien financées, et puis des projets plutôt de création partagée et là qui sont souvent moins bien financés quand même aussi. On n'est pas sur les mêmes moyens qui sont octroyés à ces productions-là. Ça coûte moins cher et même des fois c'est bien parce que ça coûte pas trop cher. Donc il y a quand même aussi cet enjeu-là qui est aussi un enjeu, me semble-t-il, de reconnaissance de cette démarche. Et donc je trouve qu'on est vite convaincus, et on est tous convaincus ici, je pense, mais en dehors aussi de la valeur de ces types de créations, qui ont une vraie valeur. On voit bien dans les structures, les personnes qui s'engagent dans ces projets, ils en voient l'intérêt et tout l'intérêt, bien évidemment. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe autour de ces projets-là, avec les personnes, les populations, les habitants, les publics, les spectateurs, ou tout simplement les personnes, encore une fois. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de difficultés à véritablement installer la reconnaissance de ces projets et de dépasser justement aussi des fonctionnements habituels, des structures culturelles et des collectivités publiques qui les conduisent aussi vers une forme vers une forme organisationnelle qui c'est quand même un petit peu routinisée et où les lignes ont quand même des difficultés à bouger. Alors, il ne s'agit pas non plus de vouloir que tous les artistes soient engagés dans des démarches comme celle-là, parce qu'on voit bien d'abord que pour un artiste, c'est parfois un moment de son travail artistique, ce n'est pas tout son travail artistique. Ce n'est pas forcément des artistes qui s'engagent complètement et qui deviennent des artistes de la création partagée. Il y en a, et il y en a qui font ça très bien, mais ce n'est pas non plus une nécessité. Donc il ne s'agit pas non plus de vouloir remplacer complètement un modèle par un autre, mais peut-être de réfléchir à la façon dont on peut ouvrir les choses et un peu plus donner sa place et reconnaître ces dimensions-là. Alors, j'ai bien vu que, et je sais bien qu'il y a des structures qui le font, hein, mais ça reste quand même toujours un peu fragile, me semble-t-il. Et surtout, ça pose quand même la question de la valeur aussi, et de comment est-ce qu'on évalue aussi la valeur de ces projets, sur quoi on les évalue. Ça pose la question aussi de l'expertise artistique, me semble-t-il. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile d'ouvrir cette question-là. Est-ce que l'expertise artistique, ça repose uniquement sur justement des experts qui se sont constitués ? Est-ce qu'il n'y a pas justement un petit peu un entre-soi qui s'est formé ? C'est-à-dire, on l'a évoqué pendant la journée aussi, hein, c'est-à-dire le milieu artistique, il est un peu quand même aussi dans un entre-soi. Et est-ce qu'on est prêt aussi à penser à une expertise partagée ? Justement, si on est dans des projets qui ne tiennent pas tout de l'artiste, mais qui tiennent aussi au contexte, est-ce qu'on est prêt aussi à partager une part de l'expertise et faire rentrer dans l'expertise artistique d'autres personnes qui ne sont pas les experts habituels et aussi d'autres dimensions que des dimensions purement artistiques ? Et ça, je pense que c'est une vraie question, et je pense que ça peut être un débat aussi assez houleux chez les professionnels que de réfléchir de cette manière-là. Je vais continuer peut-être justement en vous présentant un petit peu ces éléments de la recherche et cette diapo sur laquelle je voulais venir. Ah, on descend ici. D'accord. C'est curieux. On va y arriver. Alors, c'est après. Oula, en plus, il manque la moitié du schéma. Là, il faut descendre. Bon, c'est pas grave, je crois qu'on va pas y arriver. Il y avait quelque chose à venir. Bon, c'est. Je suis désolée.
Non, ça va pas.
Mais
ça va. J'essaie quelque chose d'autre.
Je suis désolée pour la petite manipulation technique.
Est-ce que ça m'arrive ?
Voilà, okay. Merci, c'était quand même essentiel. C'est là, ça suffira. Je vais tout mettre. Diaporama, tout simplement. Je peux essayer ?
Oui.
Il n'y a plus de barre d'outils, par contre.
Et descendre.
Ça, c'est étrange.
Qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais en fait, on avait remarqué avant que PowerPoint, il fallait être bien aperçu. Que faire de plus ?
Et là, après, si je double clique, ça marche pas. Non, ça va pas du tout. Où est-ce que je peux trouver la barre d'outils ?
On savait avant. Je vais
passer en PDF.
Bon, je suis désolée, je crois que c'est pas possible.
Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Non, non, mais c'est pas grave. On voit. Ah non, on voit rien du tout là. D'accord. Mince. Avant, vous voyez l'image, c'est ça ouais. Bon.
Alors là, c'est. Bah, revenons. On peut pas revenir.
Non, on a constaté des problèmes déjà à ce niveau-là. Je doute qu'on
y arrive. Alors, on avait une petite image avant, mais là, tout.
Quand on le voyait en aperçu. Là.
Ah, bah, si quelqu'un veut monter sur ça. Non, vraiment, je crois que.
Bon, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, je vais continuer comme ça. Avec... c'est dommage parce que ça donnait une image un peu synthétique de ce qu'on avait commencé à étudier. Justement, en essayant de, ce qu'on avait essayé de travailler, c'était à la fois ce que représentait le dispositif culture santé et les projets qui se fabriquent dans ce cadre-là, hein, avec une définition assez large, pas forcément les appels à projets, c'est vraiment aussi dans ce lien entre la culture et la santé. Je précise parce que c'est peut-être pas dans toutes les régions les mêmes problématiques, mais en Aquitaine, effectivement, on a des appels à projets qui ne représentent pas non plus tout le champ de cette relation intersectorielle entre le secteur culturel et le secteur de la santé. Et l'idée, c'était de mettre à plat un peu ce que ça représentait à la fois pour les artistes, à la fois justement pour les établissements culturels, à la fois pour les patients publics. Alors, avec l'intervention de Christian Ruby ce matin, je vais mettre patient, public, spectateur, et plein de petits points, personne, etc. Voilà, je vais développer cet aspect-là. Et puis, la question du territoire aussi. Qu'est-ce que ça faisait, justement, au territoire? Et là, ça posait la question, de la démarche artistique et des différents types de démarches artistiques. Et là aussi, ça renvoie à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des mots qui sont des mots pièges. On a parlé du participatif, on a parlé de la médiation, on a parlé du public, et on voit bien que ces mots-là, il faut leur donner du sens, et qu'on ne met pas toujours le même sens, qu'on fait semblant de croire que c'est la même signification qu'il y a derrière ces mots, mais souvent, ce n'est pas la même signification. Et donc, il y a vraiment aussi à faire un travail de clarification, et je pense que l'enquête sociologique aussi peut permettre, à partir de situations concrètes, d'essayer d'observer le sens aussi de ces démarches et de voir qu'il y a plusieurs façons d'intervenir aussi dans ces milieux-là. Et ce n'est pas une question de jugement de valeur. Hein. Moi, je ne juge pas, je ne sais pas s'il y a une manière qui est plus intéressante qu'une autre, mais je constate qu'il y a justement différentes façons d'être dans cette rencontre pour les artistes, qu'il y a des artistes effectivement qui se servent aussi des contextes comme d'une matière et dont ils vont faire une œuvre. Et c'est pas là aussi c'est une démarche et ça veut pas dire que cette démarche là elle est pas intéressante parce que ce matin aussi on a entendu je ne saurais pas citer la personne qui évoquait ça mais qui bon voilà le contexte peut être un prétexte en quelque sorte aussi à la création d'une œuvre mais en même temps ça ne présume en rien de la qualité de ce qui se passe aussi dans ce contexte là et là il y a vraiment tous les cas de figure. Ça veut pas dire que tout est toujours réussi. Et je pense qu'on gagne aussi, pour faire avancer la réflexion, à étudier aussi justement des projets qui ne peuvent ne pas aboutir, qui peuvent être extrêmement conflictuels, qui peuvent être où l'artiste décroche et s'en va, ou des choses qui ne sont pas réussies, entre guillemets. Là encore, il faudrait peut-être préciser ce que c'est que la réussite dans ces projets-là. Mais on sait qu'il y a des projets voilà, qui ne vont pas au bout, qui ne fonctionnent pas, quoi. Et je crois que ça, c'est aussi intéressant de s'interroger là-dessus pour justement affiner aussi ce qu'on appelle la participation, ce qu'on appelle aussi les projets partagés, pour comprendre un peu mieux aussi le ressort aussi de ces projets. Donc l'idée, c'était aussi justement de pouvoir aller vers une forme de typologie. C'est pas vraiment le terme parce que c'est quelque chose qui peut être évolutif et qui n'est pas fermé du tout. Mais de commencer justement à lister les modes d'intervention aussi et à reconnaître aussi des modes d'intervention très différents en essayant de comprendre ce que ça, à quelle place ça a aussi pour les artistes, quelle place ça a dans leur fonctionnement d'artiste, dans leur projet, dans leur vie artistique, comment ça se noue justement avec des formes de création qu'ils vont montrer ailleurs, qui vont montrer dans des institutions culturelles ou qui vont fabriquer ailleurs. Et là, il y a vraiment des positionnements qui sont extrêmement riches et extrêmement diversifiés aussi par rapport à ces lieux-là. Par rapport aussi à l'insertion justement des projets, ce qui nous a intéressé, c'est aussi l'insertion justement de ces projets Et effectivement, là aussi, il y a plusieurs niveaux d'insertion de ces projets. Il y a des projets qui ne peuvent pas, dont on ne peut pas présenter un résultat véritablement, parce que ça n'a pas forcément de sens. On est dans un atelier, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la démarche artistique va primer sur le résultat, et on ne cherche pas forcément, à montrer un résultat ou à le montrer de façon pérenne. Donc le résultat va être montré, par exemple, de façon un peu confidentielle, mais après, ce n'est pas forcément la destinée du projet. Par contre, il y a des projets qui cherchent à être diffusés, et là aussi, on a des cas de figure extrêmement différents. C'est-à-dire que ces projets qui cherchent à se diffuser, parfois, ils trouvent des lieux de diffusion habituels parce que ça se fait en partenariat avec un équipement culturel aussi et que donc ça va pouvoir finalement se retrouver dans des modes de production habituels. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué de diffuser ces produits-là, si je puis dire, en tout cas ces objets-là. Et c'est compliqué parce que d'abord il y a une thématique qui est un peu forte, il faut bien le dire. Souvent on parle du handicap, de la mort, de la maladie, donc de sujets qui ne sont pas forcément très joyeux, donc qui font que les œuvres elles sont difficiles parfois à sortir de lieux un peu spécialisés ou de festivals un peu spécialisés qui sont spécialisés autour de ces productions-là. Et on voit qu'il y a aussi des lieux qui permettent la diffusion, mais finalement dans des réseaux qui sont très très spécifiques. Avec aussi, je trouve que c'est intéressant, souvent le soupçon que finalement on est en face de projets ou d'œuvres qui portent des émotions extrêmement fortes, mais ces émotions, elles sont un peu toujours suspectées de venir davantage de la thématique et du milieu dont ils sont issus, c'est-à-dire un milieu du handicap, de la maladie, du milieu de la santé, etc., plutôt que d'être une véritable émotion artistique. Et souvent, cette ambiguïté-là, elles font que ces projets vont avoir du mal à se diffuser, ou alors ils sont diffusés avec un bandeau spécial, projet culture et santé. Je l'ai vu des fois dans des plaquettes de lieux. Alors il y a des lieux qui ne mettent pas ces spectacles-là dans leurs plaquettes, ou qui les mettent dans action culturelle à la fin, mais il y a aussi des lieux qui les affichent, mais qui les affichent avec... le label, en quelque sorte, Culture Santé, ou le panneau Culture Santé, qui est une sorte de signalement aussi, et qui fait que c'est pas non plus une totale reconnaissance de ces projets-là. Ce que mon petit schéma faisait monter aussi, c'était quand même qu'on était aussi, grâce à ces projets, dans un renouvellement des modes de médiation. Alors ça a été évoqué aussi ce matin par Sylvia Devarine. Ça me paraît très très important, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, d'abord, on est dans un médiateur, dans une médiation qui fait qu'il y a une nécessité justement aussi d'être aux manettes pour permettre au projet d'émerger dans cette rencontre entre des mondes et entre des temporalités différentes. Parce qu'on l'a évoqué, on fonctionne dans le milieu artistique par projet, et c'est là on est dans du projet, mais en même temps c'est une rencontre aussi avec des milieux qui souvent sont dans du salariat, alors même si c'est des horaires des fois pas spécifiques, il y a des gens qui travaillent de nuit dans les hôpitaux, il y a des gens qui ont des horaires décalés, etc. Mais ça reste justement une logique aussi de travail salarié, et la confrontation entre ces logiques, ce temps de travail salarié et ces temps du projet font que parfois c'est quand même extrêmement difficile à trouver des temporalités pour vraiment aussi construire des choses. C'est une question de temporalité, c'est aussi bien évidemment une question de culture professionnelle différente, donc une rencontre avec des cultures professionnelles, une rencontre qui, a priori, pour les projets justement qui apparaissent comme intéressants, ça se passe bien. C'est justement ce décalage que les personnes vont chercher à avoir, mais parfois aussi, après tout, il n'y a aucune raison pour que ça se passe non plus toujours très bien. Et cette rencontre entre des cultures professionnelles, elle peut aussi provoquer parfois du conflit, de l'incompréhension, etc. Et là, on voit qu'il y a un rôle quand même, justement, de la médiation qui est extrêmement important, dans une médiation qui serait une forme de traduction aussi entre les enjeux des uns et des autres pour faire en sorte que le projet réussisse à se mettre en place dans de bonnes conditions. C'est intéressant aussi parce que peut-être la particularité de l'Aquitaine par rapport à Rhône-Alpes, me semble-t-il, enfin nous, vu de l'Aquitaine, on a toujours l'impression que c'est très très chouette ce qui se fait en Rhône-Alpes, c'est beaucoup mieux et c'est bien plus avancé. C'est peut-être une représentation, mais en même temps, c'est aussi une réalité dans le sens où le culture santé, c'est beaucoup plus ancien qu'en Aquitaine. Donc en Aquitaine, c'est intéressant aussi parce qu'on voit les choses en train de se faire et on voit aussi des projets qui se font justement sans médiation, où c'est l'artiste qui, à un moment donné, se trouve en situation d'être le seul médiateur. Et des fois, ça fonctionne parce qu'il y a des artistes qui sont très forts pour ça et qui vont s'emparer de cette mission-là de médiation. Mais des fois, on voit bien qu'il manque quand même aussi un rouage extrêmement important dans ces projets pour les faire, pour vivre et pour les positionner vraiment à leur juste place aussi dans les structures. La médiation, elle est aussi du côté, la réflexion sur la médiation et la transformation de la médiation, elle est aussi du côté des structures culturelles, puisque justement là, ça pose la question de savoir comment ces structures culturelles vont justement aussi pouvoir travailler avec ces objets-là, ces projets-là, et comment ça, les structures culturelles peuvent aussi jouer un rôle justement dans l'inscription sociale de ces projets, pour leur donner aussi une vie, pour leur permettre aussi de continuer à exister. Donc là aussi, c'est, me semble-t-il, une façon différente de penser la médiation culturelle à l'intérieur même aussi des structures culturelles qui se développent aussi à partir de ces projets, et ça me paraissait intéressant de le souligner. Alors là aussi, ce qu'on a mis en exergue aussi dans ce travail-là, ça rejoint encore une fois un élément qui est apparu dans la journée. C'est la question des droits culturels, puisque justement on a beaucoup parlé, enfin en tout cas c'est venu là aussi à plusieurs moments, et puis là aussi encore un mot qui peut être un terme piège, en tout cas qu'il faut travailler, qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'on entend par droit culturel véritablement, quel sens ça a, comment ça résonne, et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut ne pas employer ces mots. Moi, je crois qu'il faut les employer, mais il faut leur donner du sens, et il faut peut-être préciser le sens, et pas faire semblant que ça a le même sens pour tout le monde, parce que c'est pas vrai, on y met des choses extrêmement différentes. Là aussi, ça renvoie, me semble-t-il, à des réflexions qui ne sont pas non plus très jeunes et dont on pourrait faire aussi l'archéologie pour savoir exactement quand même d'où ça vient, mais qui se renouvellent aussi parce que justement la question des droits culturels, elle est inscrite dans la loi NOTRe, elle est inscrite dans la loi sur la création. Donc on voit bien que c'est des éléments qui viennent sur le devant de la scène aussi aujourd'hui. Moi, il me semble que la particularité de ces interrogations-là sur les droits culturels, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui intéresse les artistes. Et me semble-t-il que ça renvoie aussi à d'autres façons d'envisager la question de la culture. On a parlé plus dans les années 80 de démocratie culturelle. Mais il me semble que souvent ce terme de démocratie culturelle, il n'a pas forcément passionné les artistes. C'est pas un terme, c'est un terme qui était beaucoup plus du côté des animateurs socioculturels, justement, qui voyaient aussi une façon de valoriser leur pratique, et peut-être à juste titre. Là, la particularité finalement, c'est qu'on peut retrouver aussi une manière de prendre en compte justement les personnes, une manière de partir aussi des personnes. Et il me semble que la particularité actuelle, c'est qu'effectivement aussi, c'est pas quelque chose d'extérieur au monde artistique, mais c'est vraiment au cœur aussi des questionnements des artistes et des acteurs culturels. Et ça me paraît quand même assez récent quand même dans l'histoire des politiques culturelles, en tout cas, et de ces projets en particulier. La question des droits culturels aussi parler un petit peu aussi de ce qui se passe en Aquitaine. Encore une fois, on n'est pas du tout à la pointe de rien du tout dans la région Aquitaine, pour plein de raisons qui seraient bien trop longues à expliquer ici. Le conseil régional a choisi de réfléchir à cette question des droits culturels et d'essayer de revoir aussi ses modes d'intervention et ses modes de subvention en partant des droits culturels, en prenant au sérieux ça. Alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner, hein, qu'est-ce qui va se mettre en place, comment ça va être utilisé. On sait qu'il y a des expériences qui ont été faites dans les départements. Ces expériences, on voit que ça n'a pas forcément donné des choses très 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 originales, même si ça a permis de bouger les lignes dans certains endroits. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Ce que je trouve intéressant dans la façon dont, dont c'est pensé, c'est que ce qui est mis en avant, c'est que très souvent, les subventions données à des projets sont des subventions données justement pour faire aboutir un projet. C'est-à-dire, on va financer un festival, on va financer quelque chose qui est un aboutissement. Et là, la manière de voir les choses, c'est de dire on va se situer au niveau des processus. C'est-à-dire, c'est plus l'aboutissement qu'on va financer, mais c'est le processus. On va essayer d'étudier le processus qui permet justement de prendre en compte les personnes, etc. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner encore, mais je trouve que là, il y a une voie qui a travaillé, encore une fois, sans présumer que ça va être la résolution de tous les problèmes et que ça va forcément déboucher sur une parfaite reconnaissance et une parfaite transformation du milieu artistique et culturel. Mais en tout cas, c'est une voie intéressante. Je crois qu'on est aussi dans un monde extrêmement complexe. C'est aussi quelque chose qui a été dit aujourd'hui, en multipolaire, comme on dit parfois. Et il y a des leviers différents. C'est difficile de faire en sorte que tout bouge en même temps et que tout bouge ensemble et que tout se transforme aussi. Donc on est un petit peu obligé de travailler, de prendre les choses par un bout, si je puis dire, d'essayer de voir si cet aspect-là peut générer une sorte de levier et que ce levier peut transformer un petit peu les choses, peut produire de l'innovation. Alors en sociologie des organisations, on le dit bien, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment présumer de ce qui va advenir d'une démarche qui est très intéressante, qui peut apparaître très innovante, mais qui peut rester complètement confinée à un domaine et ne jamais se traduire par une véritable transformation de ce secteur-là. Puis au contraire, il y a des choses qui ne sont pas forcément a priori très très intéressantes, mais qui vont complètement bousculer un secteur. Donc ça vient de la complexité aussi du monde dans lequel on vit, qui est vraiment fabriqué de façon très complexe, multipolaire, etc., et qui fait qu'on ne peut jamais présumer aussi que personne à la recette de savoir vraiment par quel bout on peut prendre les choses et par quel bout on peut générer justement une transformation aussi des organisations et des différents du monde artistique et culturel ou du monde de la santé, du handicap, du secteur social pour parler de monde qui côtoie justement ce secteur artistique et culturel dans lequel se fabriquent ces projets. Je trouve qu'il y a une ambition quand même dans ces projets. Il faut que je termine juste.
Pour terminer, si
d'accord. Pardon. Il y a une ambition quand même dans ces projets, et je crois qu'il ne faut pas renoncer à cette ambition quand même. C'est que moi, je pense, c'est que ce sont des projets qui ont une capacité à bouger les lignes, encore une fois, pas seulement d'être dans des positionnements ponctuels, mais qui peuvent aussi faire réfléchir sur ce que c'est que le milieu artistique et culturel, de quel genre de monde de l'art on a envie, on a besoin, pas forcément pour que tout le monde converge dans le même sens, encore une fois, parce qu'il y a des positions, on peut quand même imaginer que la liberté de l'artiste, c'est justement d'avoir des positionnements extrêmement différents, et je crois que cette liberté de l'artiste, on y tient tous quand même, hein, c'est ça aussi qui fait la valeur de ce secteur-là, mais en même temps, effectivement, de penser que c'est un engagement et que cet engagement il a la capacité de véritablement bousculer les organisations et les pratiques.
Merci beaucoup à Françoise Liot. On sent le chercheur à chercheur investi dans cette recherche. En tout cas, on est très impatients de lire ce qui sortira de ce travail sur la région Aquitaine. On aura peut-être la chance de voir le croquis. Non, vraiment, merci beaucoup.
Merci.